Bonjour à tous, on va commencer l'émission sur les correspondances avec François Malabave. Bonjour.
Oui, bonjour Evan et bonjour à tous aussi. Une émission en direct de Manosque au cœur du festival des correspondances comme tous les jours. Et je suis très content aujourd'hui parce qu'on va accueillir deux auteurs magnifiques qui ont fait deux livres superbes. Guy Bollet a écrit Le Fils du Feu, Fils du Feu, et Denis Michelis, qui est aussi notre invité, a écrit lui Le Bon Fils. On les entendra dans un instant. Nous entendrons aussi Jacques Ménie, le président des Amis de Jean Giono, à propos de la correspondance entre Jean Giono et son éditeur Gaston Gallimard, qui est publié chez, bien sûr, Gallimard, Lettres à la NRF 1928-1970. Et puis j'aurai le plaisir aussi de recevoir Dominique Blanchecotte, qui est présidente de la Fondation La Poste et un partenaire fidèle et important du festival. On entendra aussi évidemment Olivier Chaudançon. Bienvenue sur le territoire des correspondances. On va tout de suite commencer par écouter le directeur des correspondances, Olivier Chaudançon, nous donner le programme du jour. Olivier Chaudançon. Vendredi 23 septembre, toujours un beau programme, Olivier Chaudançon.
Oui, et qui commence en direction du public jeune, puisque nous aurons à 10h30 une rencontre préparatoire au prix littéraire des ados du 04, qui fera dialoguer deux auteurs de romans ados, Clémentine Beauvais et Arnaud Catherine. Je précise, roman ado, oui, ça s'adresse aux ados, mais ça peut être parfaitement lu par des adultes avec beaucoup de plaisir. Et à la même heure, une rencontre qui porte la plume sur le dessin et le roman graphique, la bande dessinée, avec Emmanuel Dibert et Franck Prévost. À 11h, comme chaque jour, l'apéro littéraire, on a l'habitude, devant la médiathèque, qui réunira une jeune talentueuse auteure de premier roman, Elisa Chua du Sapin, et Emmanuel Venet, que l'on connaît déjà à Manosque, il est venu il y a quelques années. Cette journée est décidément dédiée en large partie aux jeunes, se poursuivra à 14h avec la battle littéraire. Celle de l'année dernière a fait date. Les jeunes ont quelques minutes pour convaincre le public de la lecture d'un livre et de son intérêt. Et ça peut donner lieu à des spectacles inoubliables. À 15h, pas mal de rendez-vous et chacun choisira son camp, si j'ose dire. Une réunira l'auteur de premier roman, Guy Bollet, qui sera en dialogue avec Serge Joncourt. Serge Joncourt, je peux le dire, c'est un des chouchous du festival. C'est quelqu'un qui parle extrêmement bien de son travail, qui est extrêmement drôle. Je pense qu'il y aura de l'ambiance place de l'Hôtel de Ville à ce moment-là. Place Marcel Pagnol, dans le même temps, il y aura un dialogue entre Denis Michelis et Emmanuel Venet. Et puis, je rappelle, comme chaque jour, à 15h, il y a aussi ceux qui peuvent choisir la sieste littéraire, aller s'allonger dans la pénombre, écouter des chansons en acoustique et des lectures de textes avec Bastien Lallemand et ses invités. À 16h30, rendez-vous avec Céline Minard, pour un livre différent du précédent, qui se nommait « Faillir être flingué », qui était formidable pour ceux qui s'en souviennent. Là, Céline Minard part faire une sorte d'ermitage en montagne. Elle se fait construire un refuge et elle essaye de vivre dans la solitude des Pyrénées, de vivre en autarcie, ce qui va provoquer évidemment pas mal de choses, y compris des aventures spirituelles, on va dire. En même temps, une manosquine, révélation littéraire de l'année, je crois qu'on peut le dire, Catherine Poulain avec son Grand Marin, un livre absolument époustouflant, moi j'ai adoré ce livre, qui sera en dialogue avec Thierry Villa, qui lui est aussi un ouvrage qui met en jeu des bateaux et des hommes et femmes sur des bateaux. En parallèle, un rendez-vous au conservatoire, dans le bel auditorium du conservatoire qu'on aime utiliser depuis l'année dernière. Quelque chose de drôle, c'est pas si courant en littérature, Hervé Le Tellier, auteur oulipien, va nous parler de son livre qui se nomme « Moi et François Mitterrand ». Un livre de lettres de M. Hervé Le Tellier qui écrit à François Mitterrand, président de la République. Et la présidence de la République lui répond, parce que chaque courrier reçu par un président, il y a un service pour répondre. Et Hervé Le Tellier, qui a une lecture très fine, y voit un message très personnel qui lui serait adressé par le président. Donc, encouragé par cela, il va lui réécrire et il va nourrir une grande amitié avec le président. En tout cas, c'est ce qu'il s'imagine peu à peu. À 18h, beaucoup de choix. Nous pourrons écouter Jean-Baptiste Delameau et son puissant livre « Règne animal » en dialogue avec Vincent Message qui, je dois le dire, est le prix orange du livre cette année. Et c'est un prix qui a toujours bon goût, qui se trompe très peu. Donc on a toujours plaisir à accueillir l'auteur récompensé, en l'occurrence Vincent Message, on le connaissait déjà et on l'appréciait, donc on est doublement content. À la même heure, Lionel Duroy, un de mes chouchous personnels. Son livre s'appelle « L'absente ». C'est à la fois un livre d'un grand dépressif, mais ne fuyez pas si vous entendez ça. C'est aussi un livre extraordinairement énergique et drôle, comme peuvent l'être les dépressifs qui se débattent pour revenir dans la vie. Une autre rencontre avec Elisa Chua du Sapin et Lou Weifang, qui est illustratrice. Et puis, toujours à la même heure, le choix va être très difficile, un autre de mes chouchous, je dois l'avouer, Yael Fay, magnifique auteur franco-rwandais, que je connaissais moi comme musicien et qui là vient d'écrire son premier livre, Souvenir d'adolescence à Bujumbura, souvenir du génocide rwandais qui a toucher une partie de sa famille, mais surtout roman d'une grande justesse. Voilà, on est saisi par chaque personnage et chaque page, et il viendra en lire des extraits accompagnés d'un musicien, Samuel Kamanzi. À 20h, au Café Provisoire, un rappeur, je suis très heureux de le recevoir, il s'appelle Kassem Wapalek. On voulait absolument aussi proposer des choses au public jeune de Manosque qui s'intéresse au rap. Moi, je fais partie des gens moins jeunes, mais qui considèrent que le rap est une forme tout à fait intéressante et même parfois exigeante. Kassem Wapalek, avec le soutien du Café Provisoire, on l'a fait venir plusieurs jours à Manosque. Il mène des ateliers d'écriture avec les jeunes de la MJC. Et donc, ce vendredi, il fera son concert avec, je suppose, quelques jeunes de la MJC invités à ses côtés. Et en tout cas, avec certitude, présents dans la salle. Et puis à 21h, grande lecture avec l'immense comédien André Wilms, qui lira la correspondance de Dashiell Hammett. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas son nom, que c'est le grand maître du roman noir américain, Dashiell Hammett. Et c'est un homme merveilleux et bon. Et sa correspondance est chaleureuse, forte. Je vous incite à l'écouter. Et fin de soirée, 22h30, Frère Animal, second tour. On se souvient que Frère Animal avait été programmé à Manosque. Je crois que c'était pour nos 10 ans, la première Frère Animal 1. Je dois ajouter à cela qu'il est coécrit par Florent Marchais et Arnaud Catherine qui se sont rencontrés tous deux à Manosque. Donc c'est vraiment un spectacle musical qui est en héritage direct du travail mené par les correspondances. Et on est très heureux de découvrir ce Frère Animal qui sera présenté plus tard dans l'automne à la Philharmonie à Paris. Donc c'est un beau cadeau qu'ils nous font et qu'ils font au public des correspondances.
Olivier Chaudançon, directeur des correspondances, et nous retrouverons en direct sur notre antenne demain Florent Marchais et Arnaud Catherine nous parler et ils nous parleront de ce Frère Animal second tour, la saison 2. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Blanchecotte qui est la présidente de la Fondation La Poste. Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir ici. C'est pas la première fois que nous vous recevons.
Non.
Et vous êtes une habituée de ce festival. On peut rappeler en quelques mots ce qu'est la fondation, l'entreprise La Poste?
Oui, c'est une fondation qui soutient l'écriture depuis 20 ans, parce que nous fêtons nos 20 ans cette année. Et depuis 20 ans, eh bien, nous travaillons sur l'écriture, nous valorisons l'écriture, et avec des actions aussi bien culturelles, comme aujourd'hui à Manosque, ou des actions solidaires, avec le soutien d'un certain nombre d'ateliers d'écriture sur l'ensemble de la France.
On sait hélas que l'écriture épistolaire disparaît au profit notamment des mails. C'est un sujet que vous abordez avec vos amis à La Poste?
Ben, on l'aborde, on est forcément obligé de le voir, puisque vous savez qu'on a une baisse de courrier de l'ordre de 30 à 40%. Mais on voit quand même bien que je veux dire, l'écriture doit subsister par des médias différents. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet pour nous.
Et c'est la raison d'être d'ailleurs des correspondances, des correspondances de faire des lettres, d'écrire des lettres. Il y a des écritoires partout dans la ville, vous le savez bien. Ce n'est pas la première fois que vous venez à Manosque.
Non.
Quel regard vous portez, Dominique, sur ce festival?
Écoutez, pour moi, c'est une vraie rentrée littéraire. C'est là où il y a le creuset de la littérature de la rentrée, et j'aime vraiment beaucoup venir à Manosque. On a généralement une soirée de lancement chez nous à Paris, et généralement un certain nombre d'écrivains qui vont venir à Manosque viennent lire chez nous. Donc pour nous, c'est vraiment le début de la rentrée littéraire.
C'est aussi une manière d'affirmer votre soutien à ce festival, et c'est un soutien indéfectible depuis déjà pas mal de temps, peut-être même le début.
Tout à fait.
Depuis les 18 années d'existence des correspondances.
Absolument, on est un partenaire fidèle et on a vraiment envie de montrer qu'on aime la littérature. D'ailleurs, vous le disais tout à l'heure en aparté, nous avons cette année, depuis pour la deuxième édition, lancé le prix Envoyé par la Poste. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans l'esprit des gens, beaucoup pensent que il faut avoir une aide, une remarque particulière pour pouvoir être édité. Alors que c'est pas vrai. Il y a des comités de lecture magnifiques chez les éditeurs qui font un vrai travail de découverte. Et on a voulu récompenser. Et dans notre liste cette année, d'ailleurs, il y avait le Fils du Feu.
De Guy Bollet
qui est avec nous, et on a beaucoup discuté de votre livre. Mais l'idée, c'est de montrer que, effectivement, sans remarque particulière, toute personne qui a écrit un roman peut être éditée.
Vous avez le temps vous-même de lire et de lire les écrivains qui sont programmés à Manosque?
Effectivement, je prends le temps. J'ai pas toujours beaucoup de temps, mais en même temps, je veux dire qu'on peut pas soutenir la littérature et ne pas lire. Donc j'ai lu un certain nombre des romans qui vont être présentés à Manosque avec beaucoup de plaisir.
Et vous irez également au spectacle?
Bien sûr, puisque nous soutenons les spectacles avec des qui parlent de lecture de correspondance. Donc on est bien entendu là ce soir et demain soir.
Et vous pourrez intervenir aussi tout à l'heure avec les deux écrivains qui sont à nos côtés. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Je résiste plus à ne pas écouter Florent Marché et Arnaud Catherine, que vous connaissez bien. Ce sont deux personnages, Olivier le disait tout à l'heure, qui se sont quasiment connus et cooptés ici même à Manosque. Leur première édition de Frères Animal en 2008 était magnifique, avec une fable, c'est pas tout à fait le mot, un conte, n'est pas non plus le mot, très particulier et à caractère social. Cette fois-ci, c'est un documentaire particulier aussi qu'ils vont nous présenter en chanson et en musique. Et c'est donc le second tour. Ils seront sur scène tous les deux et avec leurs acolytes, évidemment, tout à l'heure à 22h30. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Evan, c'est vous qui avez choisi le morceau que Arnaud et Florent chantent.
J'ai choisi Frère Animal, Je te dois tout.
Je te dois tout. Eh bien, c'est un bon programme.
On écoute ça tout de suite.
décembre 2016, 21h18. Jean Thibault.
Je n'ai pas compris tout de suite. Mon fils partait tôt le matin. Il rentrait de plus en plus tard. Les rares fois où je le croisais, de nuit, occupé à finir un plat de pâtes à la cuisine, il avait un sourire presque serein. Et puis, des collègues m'ont tout raconté. Thibault passait toutes ses soirées à l'antenne locale du Bloc National. J'ai rétorqué, non, certainement pas. Ils ont dit, si, bien sûr que si. Les uns avec une consternation glaçante, les autres avec enthousiasme. Il faut dire qu'on commençait à compter pas mal de gens à l'usine qui votaient Bloc National. J'ai ressassé plusieurs nuits, blanches ces nuits. Un soir, j'ai voulu en avoir le cœur net. Il était 21h passé. J'ai trouvé l'adresse sur Internet, 23 Avenue de la Libération. J'y suis allé.
Qu'est-ce que tu fais là?
Et toi?
Je travaille.
Fous-toi de ma gueule.
Pourquoi tu me parles comme ça?
Tu viens avec moi.
Je peux pas partir comme ça.
Thibaut, à cette minute, je te considère encore comme mon fils. Tu viens avec moi. Thibaut est rentré précipitamment dans le local. Il a attrapé son blouson, salué vaguement les types qui étaient là. J'ai reconnu le fils du boucher. Putain, lui aussi. Je me suis demandé si son père était au courant. Ils se sont tous retournés vers moi et m'ont jeté des regards noirs et méfiants.
Thibaut est ressorti, il m'a suivi. J'ai marché d'un pas nerveux et rapide. Je ne voulais pas qu'on me voie là.
Il faudrait pas croire, ce sont des gens comme toi et moi.
Moi qui te pensais rangé, je demandais pas grand chose, un peu de répit. Et je te trouve là, à plancher sur des slogans et des tracts de fachos.
Tu retires tout de suite ce que tu viens de dire, tu les connais même pas. Toi qui ne crois plus en rien, toi qui ne sais même plus à qui donner ta voix. Un coup à gauche, un coup à droite, il te mènera où ton Gymkhana? À larguer dans l'urne un bulletin blanc et désabusé.
Arrête de réciter.
Lâchez, vous êtes tous lâchés. Difficile à admettre, pas vrai? Il n'y a que le bloc national qui puisse encore quelque chose pour toi.
Je ne te reconnais pas.
T'inquiète, ça viendra.
Mais viendra quoi?
Je te dois tout, papa. Souviens-toi quand tu chantais le temps des cerises. Au même moment, tu les voyais tous arriver en France. Les crouillas, les ratons, les bicots. Je les ai appris où ces mots, selon toi? À l'école? Souviens-toi, camarade. Quand tu lisais Luma, tu trouvais déjà que tu n'étais plus chez toi.
Je ne te reconnais pas.
Et quand tu as voulu déménager parce que la vie devenait impossible, les racailles qui se répandaient dans la cage d'escalier, les boîtes aux lettres sitôt réparées, sitôt explosées, tu ne te rappelles pas. Je te revois claquant la porte en maugréant, il y en a trop. Alors voilà, dont acte, un jour tu nous remercieras. Tu me remercieras.
Après, je n'ai plus rien dit. Je n'entendais pas. Je ne pouvais pas. Nous sommes arrivés à la maison. J'ai demandé à mon fils de faire son sac. Je l'avais déjà perdu une fois. Cette fois, c'est moi qui prenais la décision. Celle de le perdre encore une fois.
Un extrait du disque Frère Animal, second tour, et vous avez évidemment reconnu la voix du grand Bernard Lavilliers qui a apporté ses cordes vocales à cette opération d'Arnaud Catherine et Florent Marché. À noter aussi que François Morel, comédien qu'on a vu ici même à Manosque dans le cadre des correspondances aussi, a prêté lui aussi sa voix et son humour particulier pour cet album spécial. Ils seront donc en concert ce soir 22h30. Florent Marché et Arnaud Catherine et Frère Animal, c'est à 22h30 au théâtre Jean Le Bleu. Bonjour Guy Bollet.
Bonjour.
Guy Bollet qui est à nos côtés, qui a écrit Fils du Feu chez Grasset et qui va répondre à mes questions. Quelques-unes seront peut-être un peu indiscrètes, on va voir si ça me prend. C'est votre premier roman, Guy Bollet, et c'est un homme qui a fait 1000 métiers, surtout dans le monde de l'équilibre. Il a été acrobate, garde du corps, directeur de cirque, saltimbanque, et aujourd'hui, il le dit avec ferveur, il est écrivain. Écrivain en plus avec talent et puissance. Fils du Feu, c'est l'histoire d'une vie. Un fils de ferronnier dans les années 60, il voit la société changer, mais surtout la disparition de son petit frère va emporter la famille et surtout sa mère dans une douleur incommensurable et éternelle. Elle refuse la mort de son enfant et de déni en déni, elle continue à le faire vivre et grandir avec la complicité de son fils vivant, lui. Un père abattu qui commet l'irréparable sur sa femme et se brouille à jamais avec sa fille aînée, l'homosexualité naissante chez le narrateur, fils du feu, la vie qui continue jusqu'à la mort des parents et cette maison pleine de souvenirs et de fantasmes qu'il faut vider. Un beau livre plein d'une tendresse rude comme une enclume, incandescente comme un tison et percutante comme des coups de marteau. Première question, Guy Bollet, vous avez pratiqué les arts de la forge?
Non, j'ai travaillé avec mon papa dans l'usine, j'avais 10 ans. Donc j'étais ce qu'on appelle un grouillot, quoi. C'est-à-dire j'étais chargé de balayer l'atelier, de ranger les bouts de fer par taille, selon qu'ils étaient du fer carré, du fer plein, du fer rond, du fer en U, du fer en T, vous voyez, je m'en souviens encore. Et ils ne voulaient pas que je touche à la forge, parce qu'il y avait un côté, j'étais trop petit déjà pour manier le fer chauffé à blanc ou à rouge, il y avait quand même un danger, on a vite fait de se brûler, d'avoir un accident avec la forge. Les marteaux de forge étaient aussi assez lourds, et puis je crois que surtout c'était qu'ils pensaient que ce n'était pas ma place, que je devais atteindre un certain âge, une espèce de rite initiatique qui me faisait peindre les barrières. J'ai passé toute mon enfance à peindre au minium, vous savez, la peinture orangée anti-rouille, là. Donc toutes mes vacances, j'étais pas un enfant exploité, hein, loin de là, mais enfin j'ai quand même passé toutes mes vacances à peindre des barrières et à ranger l'atelier.
La première scène d'ailleurs de votre roman, on voit un enfant, on reconnaît d'ailleurs, d'après ce que vous dites, on vous reconnaît un petit peu dans cet enfant qui regarde son père et son complice, on va l'appeler comme ça, Jackie, et il est entièrement fasciné d'ailleurs par ce complice, par cette espèce de rite très bizarre de deux êtres humains qui sont en train de façonner le fer et le fer en fusion. Et là, on a vraiment notion, enfin on a vraiment l'impression que vous avez vécu ça de très près, quoi, avec les odeurs en plus.
Parce oui, que enfin,
la forge a une odeur.
Oui, oui, ça m'est revenu. J'avais complètement oublié. C'est un roman, hein, donc c'est des personnages aussi inventés, avec une trame et tout ça. Le narrateur, il a fait la fac de lettres, il est homosexuel, il est peintre. J'ai jamais été ni peintre homosexuel, ni jamais fait de fac du tout. Enfin, donc c'est quand même un roman, quoi. La partie autobiographique du roman, c'est la forge, effectivement. Et la forge, elle est née d'un autre roman sur lequel j'ai travaillé pendant 30 ans. J'en ai écrit 40 versions à peu près. Je racontais mes parents qui montaient des opérettes à la maison. Pour les voisins, on mettait un tourne-disque, ils chantaient par-dessus. Ils s'habillaient avec un peignoir, une fausse moustache, enfin tout ça, quoi, avec les moyens du bord. Et ils montaient une opérette, des opérettes pour les gens du quartier, avec tous les grands duos, prendre le TA2, la balancelle, enfin tous les grands duos d'opérettes.
Pousser les scarpolettes,
oui, tout ça, enfin tous les grands classiques. Et puis je m'étais mis en tête de raconter ça, puis j'y arrivais pas. Donc j'ai bien fait 40 versions de cette part d'enfance dans laquelle il n'y avait jamais la forge. Il n'y avait jamais non plus le petit frère mort, quoi. Parce que, bon, là je raconte qu'il y a un petit frère. Moi j'ai perdu un petit frère, mais il avait une semaine. Et sans doute ça a joué dans l'inconscient de ce roman. Et la forge est revenue à l'issue de ces 40 versions qui étaient archi nulles, qui étaient c'était pas très bon, parce que j'arrivais pas à trouver.
On va dire pas abouti.
Voilà, ça pas abouti. Mieux. Voilà, pas abouti. C'est plus correct. C'était quand même bien nul. Et puis j'arrivais pas. Et ce fils du feu est sorti comme une espèce de grossesse des 40 contractions précédentes. Voyez, voilà.
C'est un miracle de la médecine, ça. Alors là,
exactement,
là c'est vraiment étonnant.
C'est l'obstétrique.
On retrouve d'ailleurs vos parents réels qui chantent dans le livre avec ces... Il y a quelques petits moments, quelques éclaircies assez sympathiques, heureusement, parce que c'est, malgré tout, c'est un livre assez sombre, puisqu'il y a ce drame terrible qui aura chamboulé la vie d'une famille, évidemment, on peut le deviner. Dans ce cadre-là, le petit frère du fils du feu a 4 ans, et puis il y a des scènes terribles quand on apprend, enfin, quand la mère apprend que son fils est décédé, ce coup de fil qu'elle passe à l'hôpital où il est hospitalisé, et puis on lui dit ah oui, chambre 317, oui, chambre 317, décédé.
Oui.
On lui dit comme ça.
Hélas, c'est tout à fait vrai. Bon, on ne peut pas toujours dévoiler la part d'autobiographie ou de réalité ou de fiction dans un roman, hein, parce qu'on n'est pas dans des pourcentages. Mais ça, c'était tout à fait authentique. Mon petit frère, qui avait une semaine, ma maman a téléphoné à la maternité et on lui a répondu ça.
C'est très violent.
Oui, c'était affreux. Mais c'est comme c'est écrit dans le roman, ça devait être une dame qui devait balayer, puis qui a pris le téléphone, puis qui a regardé le registre. Puis à l'époque... À l'époque, c'était quand même beaucoup plus violent, la condition féminine, même le moment de l'accouchement. Je sais que mon papa, qui était forgeron, mais qui avait fait de la boxe aussi, il a cassé la figure à l'accoucheur, quoi. Vous voyez, c'était un peu Jésus qui met des pains, vous voyez. C'était le miracle de l'enfantement.
Sans les multiplier, peut-être.
Oui, il les a multipliés. Non, parce qu'il avait été tout à fait odieux, quoi. Je ne peux même pas dire comme ça. C'est vraiment, il avait été grossier avec ma maman. Ouais.
Et ça, c'est la réalité en plus.
Oui,
donc,
oui, oui.
Guy, dans ce livre, il y a évidemment la mort du petit frère de Norbert. Mais en même temps, il y a la schizophrénie, quoi, de la mère qui va nier sa mort et qui va accompagner ce Norbert. Elle va le faire grandir en imagination, dans sa tête et dans son cœur, à l'image d'ailleurs de Jean-Marie, le fils de la voisine, lui aussi qui est disparu à la guerre. Et ces deux femmes vont devenir folles, quasiment.
Oui, folle.
Parce
oui.
que tous les jours, la Marguerite des Oiseaux, qui est donc la voisine, dans sa douleur et sa schizophrénie, tous les jours, elle sort sur le pas de la porte en disant « Jean-Marie, rentre, tu vas manger tout froid. » Et elle lui présente des pâtes au jambon, c'est ça
hein, oui, un truc pour les jambon, gamins. Jambon purée, quoi. Oui.
Voilà, le truc classique qu'on présente à des enfants tous les jours, jusqu'à la fin, quoi. Oui. Et c'est ce qui va arriver à la mère du Fils du Feu aussi.
Oui, parce que le narrateur, il va devenir peintre et quand il est enfant. Il aime bien s'asseoir au-dessus du linge qui sèche, parce qu'il y a toute une partie avec les lavandières qui est assez importante dans le roman. À cette époque, on lavait le linge dans des grands baquets d'eau bouillante, on lavait à la main. Et au moment où son petit frère meurt, on va dépendre un drap en train de sécher, dans le drap qu'on va poser sur le cercueil. Et lui, il voit une absence dans le ciel. Ce morceau de drap se découpe dans le ciel. Et après, tout ce qui va peindre, c'est un peu pour combler ce vide. Et ces espèces de draps, à la fois peinture, c'est la métaphore de la douleur de perdre un enfant. On peut pas faire autre chose que de devenir fou, je pense, quand on perd un enfant. Après, on s'arrange avec cette folie, mais je crois pas qu'on s'en sorte. Tous ceux qui ont vécu ça, même ceux qui ont perdu des amis très proches, il y a toujours une part de nous qui est arrachée, il y a toujours un bout de drap qui manque.
C'est la chose la plus terrible qui doit pouvoir exister, perdre un enfant. Et donc, c'est vrai que ce livre tourne autour de ce drame et de ses conséquences, et c'est une très belle chose qui nous permet aussi de réfléchir à ces conditions. Il y a aussi ce père, un père taciturne, qui est mutique, et puis il y a ce Jackie Vulcain quasiment, quoi, qui est une espèce d'être surnaturel, qui est une force de la nature, et en même temps, il y aura d'ailleurs un moment, un combat qui est un combat épique entre les deux, qui se termine dans les larmes aussi, et dans le sang, évidemment. C'est une scène de cinéma.
C'est plutôt une scène mythologique.
Et aussi de cinéma.
Oui, peut-être, après, il faudra trouver le réalisateur. Mais quand on est gamin, comme je l'ai été face au forgeron, quand on est petit et qu'on voit ces hommes qui sont immenses avec des poitrails musclés, avec les coups de marteau sur le fer, avec les escarbilles qui giclent, avec la sueur et tout ça, on est face à Vulcain, face à Zeus, face à tous les dieux de l'Olympe. Et puis après, effectivement, quand je vais lire plus tard des bouquins comme Tarzan, je le trouverai un peu ridicule, quoi, ou ces autres héros qui ne savent rien faire d'autre que de crier et puis de faire les malins avec leurs muscles, qui ne savent même pas forger, quoi, non, vous voyez.
Ils ne savent pas faire une clé.
Oui, ils ne savent pas faire une clé. Moi, ça a été mes dieux. Enfin, les forgerons qu'il y avait, ils n'étaient pas nombreux chez mon père, quoi, au début. Ça a été ma mythologie.
Avec aussi un autre objet qui est important dans votre livre, c'est justement le livre qui sauvera un instant la mère et qui était aussi un lien entre les deux frères. Et là, on sent l'écrivain qui pointe.
Oui, le livre, c'est l'art, c'est comme la peinture. Et peut-être un des messages par rapport au deuil, c'est de dire qu'il n'y a que l'art qui peut sauver de cette douleur de perdre quelqu'un. C'est-à-dire, si on va écrire sous la mort de quelqu'un, si on va peindre, enfin, ou faire de la musique, hein, bien sûr, ça va être une manière de combler, tant bien que mal, ce manque.
Ces rapports au livre, c'est aussi quasiment un univers merveilleux, ça va être celui du narrateur par la suite aussi, et c'est un temps aussi celui de sa mère, grâce au fils d'ailleurs, ils vont avoir un échange qui est très, très bizarre grâce à des livres qu'ils vont s'échanger, qui vont parler, alors que au début on ne conçoit pas la mère comme une lectrice assidue. Donc c'est peut-être une manière pour elle aussi de passer outre la mort de
oui,
de
lui, Norbert. Il cherche à l'entraîner. Oui. Il adhère à sa folie, parce que le narrateur, à un moment, il est aussi fou que la mère. Hein. Moi, je m'en suis rendu compte après l'avoir écrit. Parce que lui, quand son petit frère mort, sa mère le fait grandir, elle le marie, il a un enfant. Lui, il est content d'être tonton. Il dit, c'est super, je vais avoir un petit neveu. Enfin, il est complètement déjanté, pareil. Et puis lui, il cherche à entraîner sa mère dans autre chose, peut-être comme ça. Il essaye dans la littérature, peut-être un peu dans la peinture. On sent que ça va marcher un petit peu, que la mère va retrouver un semblant d'équilibre, même avec son mari qui va revenir. La vie repart, quoi.
D'essayer de regarder devant.
Voilà, le temps fait son travail. Le gros rouleau compresseur du temps va réussir à tout aplanir, peut-être.
On va en parler, puisque j'ai sélectionné quelques-unes de vos phrases qui sont magnifiques. Et puis, on va parler de votre style aussi. Un style particulier où il y a beaucoup d'humour dans vos phrases, en filigrane, toujours. Toujours. Et je vais vous lire un extrait de Fils du Feu, de Guy Bollet. Sans commentaire, d'ailleurs, vous allez voir. Vous allez vous rendre compte de son style. Et c'est évidemment un moment où le monde bascule avec les forges qui vont disparaître. Une belle journée d'automne, papa et Jackie sont assis dehors sur les marches du perron et tiennent entre leurs mains la mort de leur enclume, de leur métier et de la forge. D'affreuses petites maisons que l'on nomme désormais des pavillons sortent de terre d'un peu partout, de n'importe quel sous-sol. On appelle aussi ces nouveaux champignons des maisons clés en main, même si les clés, celles-là, même que contemplent papa et Jackie d'un air catastrophé, ne sont plus des clés dignes de ce nom, c'est-à-dire des vraies, comme celles que eux forgent encore, avec anneaux, panetons, bouterolles, canons, fourrures et broches, de ces belles et ferventes œuvres d'art que l'on enfonce dans un vrai trou de serrure et que l'on tourne à deux mains s'il le faut, en faisant crisser les pennes. Celles des pavillons qui gisent entre leurs mains sont toutes petites, plates, pâles, faites à la machine, à la presse, à la va-vite ou à l'emporte-pièce, de ces objets modernes qu'il n'est plus nécessaire de forger, de ces choses sans nom, jetables et pitoyables, avec lesquelles Barbe Bleue passerait pour un pingre aux yeux de ces sept femmes et un abat aux yeux de ces sept portes. Avec de telles clés, les ferronniers d'art peuvent mettre la leur sous la porte. Les enclumes vont mourir à petit feu et Vulcain, sans lutter, va bientôt rendre l'âme dans un bruit de quincaillerie. Dites donc, vous avez un sacré humour, vous.
Oui, c'est drôle ce passage.
Alors, c'est drôle parce que c'est un monde qui s'écroule, effectivement. Oui. Et en même temps, c'est traité avec beaucoup de légèreté de dire, bon, ben oui, il n'y aura plus d'enclume.
Oui.
Les clés ne sont plus les mêmes.
Oui, puis le roman est aussi l'histoire des Trente Glorieuses, de leur ascension et de leur chute. Parce que le roman parle aussi beaucoup de ça, de la fin du monde et de la fin de ce monde solidaire, communautaire, à échelle humaine. Et on voit, avec l'apparition des premiers pavillons, des maisons clés en main, on a aussi celle des immeubles de 30 étages, celle du béton qui va tout recouvrir, parce que c'était la campagne, les abords de la petite ville là, où se déroule le roman et où j'ai grandi. On était encore dans la campagne, c'est la campagne au port de la ville, et tout d'un coup, même les locomotives à vapeur vont disparaître, on va voir arriver l'électricité, les bagnoles, le monde actuel.
La télévision.
La télévision, bien sûr, qui va couper les soirées familiales, qui va les supprimer carrément. Et surtout ce monde égoïste et violent et rapide, alors que nous, on vivait à un rythme encore très campagnard, quoi.
Donc c'est une belle leçon quelque part aussi que de lire Fils du Feu et de voir que beaucoup de choses ont changé et peut-être pas dans le bon sens. Il y a une phrase qui est magnifique que j'ai retenue de votre livre et qui est peut-être la leçon de ce livre superbe où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui sont dites. C'est celle-ci. Il faut bien que toutes les douleurs du monde enfantent des printemps si nous voulons durer au-delà du chagrin.
Rien à ajouter.
Exactement.
Oui, parce que si je l'analyse...
Non, c'est pas la peine. Hein, il y a tout, et effectivement, je vous la refais. Tiens, il faut bien que toutes les douleurs du monde enfantent des printemps si nous voulons durer au-delà du chagrin. Donc c'est vrai que ça résume un petit peu l'ambiance de votre livre. Et puis il y a une chose aussi qui m'intéresse dans votre livre. Vous parlez de peinture, et le héros principal du livre veut être enterré à Ornans, contrairement à son endroit où à la tombe familiale. Mais alors là c'est un clin d'œil à Courbet, l'enterrement à Ornans.
Oui, bien sûr. Oui, ma grand-mère est originaire d'Ornans. Je peux lâcher l'information. Moi, j'ai travaillé 3 ans à l'écriture d'un long métrage sur Courbet avec un réalisateur, François Royer. On a eu l'avance sur recette du CNC, puis là, moi j'ai fini mon travail de scénariste et lui, il va continuer sa recherche de finances, qui peut durer des années. Donc effectivement, Courbet, de toute façon, Courbet, il est dans notre regard dès qu'on ouvre la porte, parce que tout ce qu'il a peint, moi je l'ai sous les yeux tous les matins, comme j'habite dans le Jura. C'est-à-dire à la frontière du Jura et de l'endroit où habitait Ornans. Oui, c'est plus qu'un clin d'œil, c'est dans les veines.
Et il y a un autre peintre aussi qui est cité très 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 subtilement, c'est Nicolas de Staël. Alors au destin tragique et au talent incommensurable, quoi.
C'est ça.
Aussi, ce sont des personnages qui sont, ils sont forts, quoi.
C'est pas tant son destin à de Staël, sont ses tableaux. Moi, j'ai eu le grand choc pictural de ma vie avec Van der Weyden, le peintre flamand, et Nicolas de Staël, dont je ne me remets pas de la beauté de ces toiles.
C'est magnifique, oui, oui. C'est vrai, oui. Effectivement. Oui. Vous êtes tout à l'heure en discussion sur un plateau à Manosque.
Oui, avec Serge Joncourt à 15h30, je crois, à la place de l'Hôtel de Ville.
Place de l'Hôtel de Ville, donc Guy Bollet, qui était notre invité pour Fils du Feu, qui est paru chez Grasset. Merci Guy, vous restez avec nous, évidemment,
bien
parce
sûr.
Qu'on va parler de Fils aussi tout à l'heure.
Je sais, merci.
Toujours en direct des correspondances, et c'est une émission spéciale en direct donc de ce magnifique festival. Et j'ai le plaisir d'accueillir Denis Michaelis. Bonjour Denis.
Bonjour.
Vous avez écrit Le Bon Fils, qui est paru aux éditions Notaria. Et c'est un livre aussi où on va parler de parentalité, comme avec mon invité précédent. C'est une confrontation à trois personnages principaux sur quelques mois à peine, une année scolaire très exactement. Un père et son fils, puis un ami d'enfance du père, idéalisé, sublimé, très bizarre, et qui joue un rôle central. Hans va rendre bon, entre guillemets, ce fils dénigré et rejeté par son vrai père, malade imaginaire ou imaginé. Ce fils est mal nommé, déjà, Albertin, prénom lourd à porter dans la cour du lycée, que la confusion vrai père et Hans va transformer en Constant, plus sympa, élève sympathique justement, studieux et brillant, à l'opposé d'Albertin, enfermé dans ses secrets et malentendus. C'est un roman sur la confrontation, l'opposition, l'affrontement sur fond de rapport père-fils. C'est très curieux quand même.
Vous trouvez ?
Ah oui. Le bon fils à opposer évidemment au mauvais fils.
Oui, c'est-à-dire qu'au départ de ce livre, il y avait en effet cette... je m'étais posé une question, je me suis demandé si un père et un fils vivaient ensemble, si un troisième personnage arrivait, c'est-à-dire si quelqu'un arrivait dans cette maison et souhaitait prendre la place du père pour reprendre l'éducation du fils en main, qu'est-ce qu'il adviendrait ? Comment réagirait le fils et comment réagirait le père ? Donc c'était vraiment, comme vous le disiez, c'est une sorte de triangle d'hommes enfermé dans une maison, même s'il y a quelques échappées vers l'école, puisque c'est une année scolaire, comme vous l'avez dit. Mais c'était vraiment réfléchir sur ce triangle d'hommes et sur la violence qu'il engendre, évidemment, puisque c'est un livre sur la violence domestique, sur la violence faite aux enfants, enfin aux adolescents, et qui est exercée par les hommes, puisque les hommes sont plus enclins à être violents que les femmes.
Qui peut être une violence physique, mais aussi une violence verbale qui est terrible, parce que le père qui dénigre son enfant avec une force incroyable, quoi, de dire, bon, ben, toi, de toute façon, t'es un mauvais fils, et oh là là, ben, je suis obligé de faire avec, quoi. Je suis obligé de faire avec. Vous voulez que je vous lise la rentrée scolaire d'Albertin ?
Je veux bien, oui.
Ça va être... on va expliquer tout ça, vous allez voir. C'est au début du livre, évidemment, hein, la rentrée scolaire. Mon père me réveille en tambourinant joyeusement à la porte et m'annonce « La rentrée, c'est maintenant. Quelle heure est-il » maugrais-je, prêt à me couvrir la tête de mon oreiller, mais mon père se trouve déjà à mon chevet, ses yeux tellement agrandis par ses lunettes en cul de bouteille que je sursaute croyant les voir sortir des orbites. 6h40. Dans la cuisine, il me tartine une biscotte avec de la marmelade et me demande « Thé ou café ?» Puis, tu ne vas pas te rendre dans ton nouvel établissement paqueté de cette façon. Et ton cartable et le nouveau cahier à spirale. Albertin, tu m'écoutes ? J'ai envie de l'étrangler. Ne laissant aucun temps mort, mon père, engoncé dans un pyjama à rayures, me précise qu'il n'a pas la force de m'accompagner au lycée et que je prendrai le bus comme tout le monde. voilà, une manière d'accompagner son enfant pour une rentrée scolaire dans un endroit où ils viennent d'emménager, donc il connaît personne à l'école. Et bon, là, on le voit, je vais t'étrangler, quoi. C'est vraiment. Et ce ne sont pas simplement des mots. On sent que derrière, il y a un ressentiment très fort de la part du père, qui est malade. Alors, malade imaginaire ou imaginée, j'ai dit tout à l'heure, peu importe. Mais en tout cas. Voilà, c'est ce rapport qui est un rapport conflictuel entre le père et le fils qui va durer jusqu'à la fin du livre, bien sûr.
Oui, puisque les trois personnages vont être condamnés finalement à vivre ensemble. Et en effet, le premier père, le vrai père, enfin, si tant est qu'il est vrai, lui exerce une...
Qu'est-ce que vous venez de dire ?
Si tant est qu'il est vrai.
D'accord.
Oui, mais en fait, le livre...
On peut se poser la question, effectivement.
C'est-à-dire que le livre, oui, repose sur une... Puisqu'en fait, il est écrit à la première personne, au jeu... le narrateur et ce fils, ce mauvais fils qui
Albertin,
va...
Albertin, vous vous rendez compte ce...
Oui, mais je lui cherchais un prénom
il
particulièrement
est joli, ce prénom,
désagréable.
Hein, mais alors, oh là là, on imagine les gamins dans une cour de récré, oui. Oh, Albertin.
Oui, et donc le second père va le rebaptiser Constant. Mais oui, en fait, comme c'est écrit à la première personne, plus le roman avance et plus le lecteur peut douter de la véracité de l'histoire, du discours du narrateur. Mais ça vient, par exemple, de beaucoup de romans noirs qui sont avec cette idée de ce narrateur auquel on ne fait pas confiance. Comme le livre est construit comme une sorte de labyrinthe et de polar, on va pas dire polar, on va dire plutôt roman noir parce qu'il n'y a pas d'enquête, mais qui repose quand même sur un suspense. J'ai pris cette règle en fait du roman noir qui est ce narrateur auquel on commence petit à petit à douter de la véracité du discours, ce qui crée ce trouble et ce qui crée ce personnage à deux visages comme le montre la couverture du livre, puisque c'est une feuille d'arbre dévorée dans lequel on voit deux visages.
Et l'arbre, justement, il y a un arbre dans le jardin qui joue un rôle important. Tout en étant très mutique lui aussi, on le voit tout au long du livre, puisque Albertin va se confier à cet arbre jusqu'à la fin, et c'est un dénouement qui est un dénouement final qui est démesuré, dramatique, la fin de l'enfance, la purification totale, j'en dis pas plus. Le fils tue le père. Bonjour Oedipe d'ailleurs, hein. Ça aussi c'est une scène de cinéma, la fin, qui est très, très particulière, où on entend des bruits qu'on imagine. On voit évidemment une scène que l'on imagine. Je vous demande, s'il vous plaît, chers amis lecteurs, de lire ce livre. Vous comprendrez ce que je viens de dire. Et puis, vous avez un style particulier aussi de Denis Michaelis, qui est spécial au niveau de l'écriture, avec beaucoup de sauts de page. On a des parenthèses. Alors ça, les parenthèses, nous, les journalistes, on n'aime pas beaucoup. Mais ça vous permet de dérouter un petit peu le lecteur, de donner votre commentaire, votre opinion sur une scène, d'échapper à l'écriture.
Oui, en fait, c'est parce que le narrateur lui-même, si vous voulez, il avance dans un monde qu'il n'arrive pas à comprendre, puisque c'est un monde violent, qu'il n'arrive pas à décrypter. Il est dans cette période de l'adolescence où il a envie de se débarrasser de son père, il a envie d'avoir un autre père, un père de substitution qui, comme par hasard, va arriver. Il est dans une période où s'ouvrent à lui les possibilités de sexualité, il n'a pas de petit ami, il parle à un arbre, donc c'est un personnage qui a un imaginaire très fort, mais qui en même temps voit le monde autour de lui s'écrouler, puisque la violence qui est exercée sur lui est telle qu'il perd ses repères. Et puisque le personnage perd ses repères, forcément l'écriture est à cette image-là. Donc j'essaye un peu de perdre le lecteur, de le déstabiliser, puisque le personnage lui-même est déstabilisé. Donc c'est ce que vous disiez, l'écriture, et oui, on passe de moments très lyriques à des moments très prosaïques, on passe d'une narration très classique à énormément de dialogues, comme au théâtre. Parfois je coupe la phrase en plein milieu, puisque le personnage est interrompu dans son flot de pensée. Je mets des parenthèses, les parenthèses c'est une sorte de... Oui, de fulgurance qu'ont les personnages, de petite voix intérieure qui vient, parce que voilà, le personnage est double, il y a plusieurs personnes en lui, on va dire, dans sa tête, et donc c'est pour cette raison que l'écriture, elle est au service de l'histoire.
Avec plusieurs types de personnages aussi, des personnages qui sont plutôt ternes, je pense aux pères, les enseignants également, les élèves, c'est pas terrible, quoi. C'est vraiment des personnages à pas fréquenter, puis il y en a d'autres qui sont flamboyants, même si c'est un peu contradictoire parfois, comme Hans, qui est un ange blond, mi-playboy, mi-bon papa, mais aussi mi-diable. Et puis, il y a aussi une jeune fille en fleurs qui apparaît là, qui amène un petit peu de fraîcheur dans ce livre. Et évidemment, c'est un peu pour cela, je suppose, que cette jeune fille est là aussi pour établir des rapports différents et peut-être voir l'avenir avec le narrateur, le héros principal, qui à la fin aura un acte terrible, où je dis effectivement c'est très édipien. C'est pour cela que vous avez écrit ce livre, c'est pour poser la question de la parentalité et de comment on devient homme malgré un père, bon ou mauvais.
J'avoue que je ne me suis pas posé cette question au départ, puisque je travaille uniquement à travers de situations conflictuelles. Donc c'était vraiment le conflit qui était entre le fils et le père qui m'intéressait, et un second père. Mais on m'a déjà posé souvent la question, parce qu'évidemment la famille est au cœur du livre, mais c'est une famille, je m'en moque d'ailleurs à un moment, puisque le fils a des cours de sociologie, comme moi-même, parce que je ne sais pas si on enseigne encore la socio, mais il y a 20 ans, ça se faisait au lycée, et on lui pose la question de dans quel genre de famille il s'inscrit. Parce qu'on apprenait ça au lycée, la famille nucléaire, la famille éclatée, enfin tous ces termes un peu absurdes qu'ont inventés les sociologues. Et donc oui, je m'amuse un peu avec la famille, c'est-à-dire que je la décompose, la famille. Mais il n'y avait pas une réflexion sur... Après oui, c'est vrai que j'ai écrit pendant le mariage pour tous. Donc forcément, deux hommes qui élèvent un enfant dans une maison. Je sais que des lecteurs m'ont posé la question, mais je n'ai pas la réponse, parce que je connais assez mal mes personnages. Je sais que ça paraît étrange, mais je ne connais que ce que j'ai écrit sur eux, en fait. Je connais pas leur biographie, je connais pas leur intention. Voilà, ils sont là, je décris ce qui se passe.
Si j'ai bien compris, vos créatures vous dépassent.
En tout cas, on est dans le roman, c'est-à-dire qu'il y a aussi un travail sur l'écriture. Je pense qu'on, Guy parlait de scénario tout à l'heure. C'est vrai, quand on écrit des scénarios, on doit connaître ces personnages très, très, très profondément.
Vous êtes tout à l'heure, Denis Michaelis, en plateau pour les correspondances. C'est à quel endroit?
Alors, évidemment, je vais pas m'en souvenir. C'est toujours comme ça. C'est à 15h, je pense, place Pagnol. Et je serai avec Emmanuel Venet, qui publie chez Verdier, et qui est un très bon écrivain et psychiatre. Donc je pense que ça va être intéressant de parler de schizophrénie avec ce monsieur. Je suis très contente de ce débat.
Il va peut-être dévoiler des choses sur vos personnages également. Donc
je pense qu'il les comprendra mieux que moi, en tout cas.
Merci beaucoup, Denis Michaelis, d'avoir été mon invité. Et puis bonne correspondance à vous-même. Je sais que c'est la première fois que vous venez à Manosque, donc on vous accueille à bras ouverts. Et évidemment, je vous conseille la lecture du Bon Fils de Denis Michaelis aux éditions Notaria. On va écouter quelqu'un qui n'a pas pu être des nôtres, malheureusement. C'est Jacques Ménie, le président de l'Association des Amis de Jean Giono, qui va présenter la littérature, enfin en tout cas l'échange de lettres entre Jean Giono et Gaston Canimard, notamment les lettres à la NRF. Il y a à 11h demain une lecture qui sera donnée au Paraïs, à la maison de Jean Giono, de ces lettres. Je vous propose d'écouter Jacques Ménie présenter cet ouvrage qui est paru évidemment chez Gallimard. Deuxième élément et deuxième parution qui va nous intéresser après la revue Giono, Jacques Ménie, c'est tout simplement les lettres à la NRF de Jean Giono, 1928 jusqu'à sa mort, 1970, un échange amical et évidemment professionnel avec ses éditeurs.
Avec un de ses éditeurs, le plus important au final, en effet, puisque Giono a commencé par être édité chez Grasset, avec qui les relations ont été en effet beaucoup moins idylliques qu'avec la famille Gallimard et la NRF. Alors, 1928-1970, c'est quand même ça qui est intéressant. C'est très rare dans les correspondances d'écrivains avec leur éditeur d'avoir la totalité de la carrière littéraire d'un écrivain. Ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est que la première lettre de 1928, elle vient de Gaston Gallimard. Gaston Gallimard, qui n'a rien lu de Giono, mais sur la suggestion de Jean Paulhan, à qui il fait évidemment une très grande confiance, qui lui a lu Colline, qui vient d'être pris par Grasset, Mais Paulan a dit à Gaston, tout le monde l'appelait Gaston, donc j'appelle aussi Gaston. Paulan a dû dire à Gaston, voilà, ce type-là, il faut compter avec lui, ça va certainement donner quelque chose. En tout cas, il faut le mettre de notre côté le plus vite possible. Et Gaston Gallimard écrit à Giono, qui n'a jamais rien publié, à part quelques poèmes dans une revue marseillaise, mais vraiment rien à ce moment-là, en juin 28, 29 juin 28. « Monsieur, je tiens à vous réserver un peu à l'avance votre place dans notre maison. Vous pouvez donc considérer que par cette lettre, je prends l'engagement de publier les ouvrages que vous m'enverrez. Naturellement, je souhaite que ce soit le plus tôt possible. Ce qui m'intéresse, c'est non pas d'éditer un livre avec plus ou moins de succès, mais de m'attacher d'une façon opiniâtre et fidèle à la diffusion de toutes les œuvres d'un écrivain. » C'est cette fidélité qui n'a pas toujours été vraie du côté de Giono, mais cette fidélité de Gallimard à Giono qui a permis aussi à l'œuvre de Giono de toujours être là aujourd'hui et qui a permis à Giono de s'installer parmi les grandes figures, bien sûr, de la littérature française et d'abord de la maison Gallimard. Oui, Giono avait commencé donc sa carrière chez Grasset, tout simplement parce que son ami Lucien Jacques connaissait Henri Poulaille, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de la guerre. Poulaille était chez Grasset au service de presse, et puis bon, voilà, naissance de l'Odyssée était refusée, Colline a été pris tout de suite. Trois semaines avant de recevoir cette lettre de Gallimard, Giono venait de signer un contrat pour trois romans avec Grasset.
Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Il y a deux éditeurs qui sont des grandes maisons parisiennes.
D'abord, je pense qu'avec la lucidité qui était la sienne, il a dû comprendre qu'il était déjà en correspondance avec Jean Paulhan. Mais il a dû comprendre qu'il ne s'était pas trompé de métier d'abord.
Oui, c'est pas un détail.
Ce qui était important. Il travaillait toujours, il était toujours sous directeur de l'agence du Crédit du Sud-Est à Manosque.
Promenade au Bermillon.
Oui, oui. Non, l'agence du Sud-Est,
Boulevard Casimir Peloutier, actuellement.
Voilà. Il avait ça. Et il y avait surtout que il était quand même, et ça c'est pas comme c'est écrit sur la bande de cette édition, la NRF c'est ma maison. La bibliothèque actuelle de Giono avec ses 8000 volumes, pour ce qui est de la bibliothèque littéraire et même essais, philosophie, etc., et théâtre, c'est quand même une bibliothèque Gallimard, Pléiade compris. La majorité, l'éditeur majoritaire, c'est Gallimard. Bon, et quand il dit « c'est ma maison parce que, dès le début des années 20, j'ai lu Gide, Proust, Claudel, Butler, Larbeau, etc., Meredith, dans les éditions », ces éditions, nous les avons toujours dans cette bibliothèque, fameuse bibliothèque du Paraïs. Bon, donc il y a une famille intellectuelle. Gide va devenir assez vite son ami, puis Paulan. Il faut représenter. Qu'est-ce que ça représente pour un manosquin, employé de banque, même s'il est conscient d'avoir un talent d'écrivain, d'être tout d'un coup adoubé par la plus grande maison d'édition? Dire. Quel regret il a de ne pas y être entré directement tout de suite. Et ce regret, finalement, il est sincère, je pense, même si après il flatte Gallimard, s'excusant presque d'être chez Grasset. Il va évidemment de plus en plus se rapprocher de Gallimard et de plus en plus s'éloigner de Grasset. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'est passé cette chose qui est vraiment le péché capital d'un éditeur vis-à-vis d'un écrivain, Bernard Grasset lui-même, qui n'avait pas lu Colline, puisque c'était un de ses associés qui avait publié Colline dans sa maison. Quand il lit Colline, il n'aime pas, et il va dans tout Paris répétant qu'il a honte que sa maison ait publié cette cochonnerie. Et évidemment, les gens de chez Gallimard prennent leur plus belle plume pour dire à Giono, vous savez ce que Grasset dit sur vous à Paris, que votre livre c'est de la cochonnerie, etc. Et évidemment, là, il n'y aura jamais vraiment de contact entre Grasset et Giono, comme il y en aura entre Gallimard et Giono. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est aussi une histoire de la maison Gallimard, cette affaire, et de la famille. Parce que, selon les époques, années 30, années 40, 50 et 60, donc pendant 40 ans, Giono va avoir un interlocuteur différent, un interlocuteur privilégié. Alors, il y en a... dont Gaston Gallimard. Mais les lettres de Gaston Gallimard lui-même, du créateur, du fondateur, on sent qu'entre Giono et lui, il y a une distance respectueuse. Réciproque d'ailleurs. Gaston admire Genoux incontestablement. En même temps, il se méfie parce que les allers-retours de Genoux entre lui et d'autres éditeurs fait qu'il ne trouve pas toujours très fiable dans ses promesses. Bon, ce en quoi il n'a pas tort. Mais de temps en temps, il lui tape sur les doigts en disant « Je vous rappelle que c'est moi votre éditeur et donc vous n'allez pas aller donner les âmes fortes chez Plon. Hein, ce sera chez moi. » Et à partir de ce moment-là, Genoux, très, très astucieusement et avec beaucoup de ténacité, va renégocier son contrat en disant à Gallimard « Bon, vous me voulez pour vous tout seul ? Eh bien, ce sera à mes conditions. » Et là, il va négocier en obtenant un certain nombre d'avantages. Et tout ça parce que je crois que Gallimard a aimé Genoux. Paulhan, au début des années 20, quand... en 28, quand il essaye d'aller avec Gide de faire sortir Genoux de chez Grasset, ils lui disent « À la NRF, vous serez aimé. » Eh bien, cette maison a aimé Genoux, l'a aimé et l'a aidé, parce que jamais ils n'ont lâché financièrement, même dans les périodes difficiles. Ils ont attendu patiemment pendant 5 ans le manuscrit du Hussard sur le toit qui ne venait pas, tout en faisant des avances mensuelles de plus en plus importantes. C'est même à ce point que, juste avant que paraisse le Hussard sur le toit, ils lui disent « Écoutez, on est obligé de vous diminuer vos mensualités parce que là... »
Et ça l'a peut-être forcé
vous
à
avez un débit de 2,5 millions à l'époque, 1951, c'était beaucoup, fin 50. Et nous, on a un conseil d'administration qu'il faut qu'on explique. La NRF fait pour vous, écrit Claude Gallimard, le fils de Gaston, donc qui est devenu l'ami de Giono, fait pour vous des choses qu'elle n'a jamais faites pour aucun autre auteur, financièrement parlant. Et donc, il y a cette histoire à la fois du parcours littéraire de Genoux, l'histoire de la construction de cette relation qui va devenir extrêmement familiale, finalement, avec la famille Gallimard. Claude Gallimard est venu ici, il était aux obsèques de Genoux, on a des photos dans la colline. Bon, Gaston Gallimard, à ma connaissance, n'est jamais venu. Et surtout, Genoux va avoir une grande affection pour Michel. Michel Gallimard, qui est le neveu de Gaston, le cousin de Claude, et Michel qui mourra donc avec Albert Camus dans le fameux accident qui leur a coûté à tous les deux la vie dans Lyon. Et que avec qui Genoux va avoir une grande complicité intellectuelle et une affection, je dirais, quasi paternelle, comme avec un certain nombre de jeunes gens comme Pierre Berger, comme Pierre Magnan, etc., ou Jean Carrière qui venaient le voir. Donc, on a à la fois un parcours professionnel, un parcours littéraire, un parcours humain avec tout le quotidien pendant une partie, en tout cas du quotidien, y compris, et surtout, c'est intéressant, le quotidien pendant la Deuxième Guerre mondiale, où Genoux a beaucoup de difficultés financières. Donc on vit au jour le jour, presque, avec lui, à travers ce prisme de la relation avec l'éditeur. Ce qui est passionnant dans ce type de travail... éditer, comme on dit, de la correspondance, c'est-à-dire annoter, faire les commentaires, l'introduction, etc., c'est que se plonger dans toutes ces lettres des dizaines et des dizaines de fois, les taper, les relire, etc., etc., c'est qu'on entre complètement dans l'intimité de la relation qui se crée et dans la vie quotidienne de ces personnages. Et ça, c'est... J'aime de plus en plus faire de l'édition de correspondance. C'était pareil pour la guerre de 14. J'ai l'impression de l'avoir faite avec Genoux quasiment, sans danger pour moi, mais en le suivant pas à pas pendant tous ces mois au front. Et on est dans cette relation vraiment de proximité. Et quand on me dit « Vous n'avez jamais rencontré Genoux », non, c'est vrai, j'aurais pu, mais je m'intéressais à lui un peu avant sa mort déjà. Mais je crois qu'à le fréquenter quotidiennement à travers sa correspondance, ses diverses correspondances, je crois que je le connais mieux que si je l'avais rencontré une simple fois au Paris.
Connaître et voir, ce sont deux choses très différentes. Je rappelle donc « Lettre à la NRF 1928-1970 », c'est paru évidemment chez Gallimard, et vous avez fait une annotation, une présentation de ces lettres dans ce même ouvrage que est venu présenter d'ailleurs cet été pendant les correspondances Alban Cerisier, le directeur de cette collection épistolaire de Gallimard, et qui trouve aussi évidemment que la correspondance de Journaux est très utile. Et voilà, c'est un extrait d'une émission Jean de Manosque qui est proposée sur notre antenne avec l'association des Amis de Jean Giono. Voilà, c'est la fin aussi de cette émission spéciale consacrée aux correspondances. Merci Evan pour la régie. On se retrouve demain pour une autre émission consacrée aux correspondances. Et j'en profite pour remercier mes invités qui étaient là, Dominique Blanchecotte et puis également Guy Bollet et Denis Michelis. À très bientôt.